Et nous lisons les textes du jour. Tout d'abord, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, les versets 1 à 4. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber, d'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent en deuil la ville de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie, la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors, on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Et puis, nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 6 à 8. Dieu envoya un messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Et puis pour terminer, nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 46 à 55. Marie dit alors, « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu Saint, il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône. Il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 87, les strophes 1, 4 et 5. 87, 1, 4, 5.
Père,
assis dans l'ombre de la mort, se lèveront joyeux à la voix du Dieu fort, éclairés désormais par sa vive lumière. Ils connaîtront leur Dieu, leur Sauveur et leur Père. Il conduira nos pas au chemin de la paix, et ce divin Sauveur remplira nos Seigneur, donne-nous une parole vivante, une oreille attentive, que nous soyons témoins de ton royaume qui vient. Qu'il est salutaire de relire ces textes qui nous éloignent d'une vision mièvre et un peu égoïste de la foi. Que ce soit le texte du prophète Ésaïe, celui de Jean et surtout le Magnificat de Marie dans l'évangile de Luc, nous avons sous les yeux l'expression d'une foi qui, loin d'être repliée dans l'intime et le privé, se déploie aux dimensions de l'histoire d'un peuple et finalement de l'histoire de tous les peuples. D'ailleurs, je m'étonne toujours en relisant le Magnificat, car je ne comprends pas comment la mère de Jésus a pu être enfermée dans cette vénération religieuse étriquée, elle, à qui l'on attribue dans ce texte des propos d'une vigueur et d'une générosité rares dans tous les témoignages rendus à la puissance et à la justice de Dieu dans la Bible. Des propos qui, dans un monde, semble-t-il, étouffant, son monde à l'époque, sont une véritable source d'espérance en la justice et la paix. Ceci dit, nos trois textes ont un point commun. Il nous parle d'un monde qui souffre et d'un monde qui attend. D'un monde qui souffre de toutes sortes de souffrances et d'un monde qui attend de la lumière, de l'air, en un mot, de la vie. Il nous parle d'un monde en crise, d'où peut sortir le pire comme le meilleur. Eh bien, ce monde, c'est aussi le nôtre, et ses paroles sont aussi pour nous. Oui, en ce temps de l'Avent, notre monde, celui d'aujourd'hui, souffre et attend. Il attend d'un président américain nouvellement élu qu'un peu plus de paix et de sagesse fasse son chemin dans les relations entre les peuples, qu'un peu plus d'équité s'installe au cœur du commerce international, qu'un peu plus de justice s'établisse au sein des nations, entre ceux qui toujours accaparent les biens et ceux qui, toujours plus nombreux, s'enlisent dans la précarité et la misère. Notre monde souffre et attend. Il attend que les responsables religieux ou laïcs fassent de leurs convictions des instruments de réconciliation, des ferments de générosité, des élans d'ouverture, de dialogue, de rencontre, d'attention portée aux sans-voix, aux sans-avenir, au sans-espoir. Notre monde souffre et attend. Il attend des chrétiens divisés que s'achantèrent leurs histoires tragiques, leurs attachements étroits à des souvenirs stériles, à des mots qui séparent. Il redécouvre la ferveur de l'annonce et du témoignage, en paroles et en gestes, de ce monde nouveau où seule la fraternité et la confiance, le souci de l'autre règne. Toutes ces attentes, nous les partageons, chacun, chacune à notre place, chacun, chacune avec notre histoire, chacun, chacune avec nos grandeurs, nos beautés, mais aussi avec nos obscurités et nos fragilités. Et parfois, dans ces attentes, la fébrilité, la précipitation, l'impatience nous guettent et nous gagnent. Et cette attente, loin de porter les fruits espérés, engendre des raidissements dangereux, des durcissements inutiles, parfois même des sectarismes nocifs et mortels. Souvent, les plus belles aspirations conduisent à des catastrophes inattendues, chargées de dangers pour ceux qui les portent, comme pour ceux qui y placent leurs espoirs. Mais aujourd'hui, dans ce temps de l'Avent qui s'est ouvert, peut-être faut-il attendre différemment, peut-être faut-il regarder notre monde et notre histoire différemment, peut-être faut-il modifier nos comportements, transformer notre regard, en un mot, répondre à cet appel qui résonne depuis 2000 ans, « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » Loin de la fébrilité, mais conscient de l'imminence sans cesse actuelle de ce temps attendu, inauguré par Jésus-Christ, qu'Ésaïe annonce, que Jean-Baptiste désigne, que Marie met au monde, peut-être faut-il nous mettre en marche calmement mais fermement, à la suite de celui qui n'appartient à aucune église, à aucune religion, à aucune idéologie, à aucune philosophie, mais qui par sa vie, son œuvre, sa mort et encore sa vie, a ouvert la voie à l'humanité véritable, à celle-là seule qui, par-delà toutes les attentes, offre à tous les hommes ce temps où tout est possible pour peu que nous mettions nos pas dans ses traces. Se tourner vers Jésus-Christ, le célébrer, le suivre, être son témoin, ce n'est pas se figer sur une histoire passée, ce n'est pas se fermer sur une identité crispée, ce n'est pas se singulariser, c'est au contraire toujours avancer vers l'autre, vers tous les autres, pour être avec eux les aventuriers de ce qui de tout temps a été promis à la création et à l'humanité qui l'habite. Un monde de paix, de justice, où tout homme, toute femme, tout enfant peut et doit vivre, non pas dans la peur et dans la crainte, mais dans la certitude que des paroles qui redressent, des regards qui rassurent, des gestes qui sauvent, sont au rendez-vous de la vie. Une vie qui appelle sans cesse des témoins pour que la lumière chasse l'obscurité et illumine notre monde. Ainsi, chacun de nous est appelé à se convertir, à se tourner vers Jésus-Christ. Mais de plus, en tant qu'Église, en tant que peuple, comme nous le rappellent ces textes que nous venons de lire, nous avons reçu tous ensemble la vocation d'être ensemble ces témoins du royaume qui fait sa demeure dans la création et l'histoire des hommes. Ainsi, la présence de l'Église au monde, sa vocation à être peuple pour Dieu et pour les hommes, l'amène à diverses formes d'interpellation, de gestes, de responsabilité. Sans nostalgie de la chrétienté, mais sans crainte d'apporter un témoignage public, c'est sur une ligne de crête risquée mais assurée que nous pouvons nous situer aujourd'hui dans ce monde qui, lui aussi, comme celui du prophète Ésaïe ou celui de Jean-Baptiste et Marie, est en crise. Alors, dans ce monde en crise et dans ce temps de l'Avent que nous vivons maintenant, j'ai envie de dire qu'à la suite de Jésus-Christ, nous avons un triple service à rendre. Tout d'abord, celui de la lucidité. Ensuite, celui de l'espérance. Et enfin, celui de la fraternité. Alors tout d'abord, le service de la lucidité. L'évangile de Jésus-Christ, lumière des nations, nous pousse à chercher toujours plus de vérité dans le regard que nous portons sur le monde. Et je voudrais donc mettre en lumière quelques données fondamentales concernant ce moment de notre histoire. Aujourd'hui, nos regards sont encore imprégnés de cette crise financière, nouvelle dans sa brutalité, mais ô combien prévisible et inéluctable. À bien des égards, elle n'est que la juste sanction des excès de la financiarisation de l'économie accumulée depuis une vingtaine d'années. Mais déjà, plusieurs crises se conjuguent. Une crise économique est en train de s'installer avec une ampleur inconnue depuis nombre de générations. Elle vient bousculer les données d'un commerce international qui, dans son injustice déjà maintes fois dénoncée, assurait un confort certain à nos sociétés dites développées. Et puis c'est aussi une crise sociale grave que nous devons nous apprêter à vivre, avec encore plus de chômage, plus de misère et même la faim, FAIM pour certains. Crise que d'autres connaissaient déjà dans d'autres lieux, mais qui jusqu'à présent nous était épargnée, du moins pour la majorité d'entre nous. Et puis, pour compléter, il y a cette crise écologique qui n'est plus simplement annoncé par certains prophètes isolés comme le Club de Rome il y a 40 ans, mais qui devient la contrainte majeure à laquelle nous devons désormais nous plier et nous habituer. Donc d'abord, de la lucidité, c'est-à-dire être témoin de la vérité. Car la vérité difficile de notre situation est encore combattue. Tantôt par cynisme, tantôt par calcul politique, par peur, par ignorance ou par indifférence. Et ici, la vocation de nos églises est de contribuer à ce que la vérité, c'est-à-dire le juste regard éclairé par la lumière de l'Évangile, le juste regard sur notre situation, se construise et se consolide. Car dans cette crise, plusieurs chemins peuvent être suivis. Il y a ceux d'abord qui se voilent la face et annoncent la convalescence pour 2009, la relance pour 2010, la reprise pour 2012. Et je ne fais que reprendre des titres de journaux. Prenons garde aux propos hâtifs, douteux et peut-être mensongers. Et puis, il y a ceux qui sont prêts à sombrer dans un obscur désir d'apocalypse. J'ai été surpris par le titre de première page d'un hebdo bien connu, très laïque pour ne pas dire laïcard, qui, à propos justement de l'élection de Barack Obama, titrait « La dernière chance », comme si la fin du monde était proche. Et puis, il y a ceux qui, dans ce monde qu'ils sentent perdu, s'anesthésient dans un quant à soi individuel, collectif, voire national, en espérant durer le plus longtemps possible au milieu d'un océan chaotique lourd de menaces mortelles. On a parlé du syndrome de Noé. Alors, dans ce monde, l'Église, au service de la lucidité, doit aussi une parole d'espérance. Nous vivons, comme cela arrive parfois dans l'histoire, la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. La fin d'une histoire, mais pas la fin de l'histoire. Certains ont comparé l'attentat du 11 septembre sur les Twin Towers de New York à la prise de Rome par Alaric. Le rapprochement est très symbolique, mais de même que saint Augustin ne confondait pas la fin de l'Empire romain avec l'Apocalypse, nous devons affirmer aujourd'hui que demain, nous serons encore sous le signe d'une promesse, de la promesse d'un avenir différent, certes, mais riche de bonheur possible et encore béni par le désir et la parole de Dieu. Cette crise, nous pouvons en effet, si nous le voulons bien, la vivre comme une crise salutaire, chargée d'espérance. Cette récession, cette dépression qui s'annonce, comme parfois certaines dépressions personnelles, est peut-être le choc nécessaire pour une renaissance sereine et durable. En effet, cette crise va peut-être nous aider à desserrer le carcan de bien des étouffements dans lesquels nous sommes ligotés, des étouffements aux visages multiples. Tout d'abord, celui de l'argent, on l'a déjà évoqué. Comment ne pas voir que notre monde étouffe, ou plutôt se noie, sous l'abondance des liquidités, cette masse financière hypertrophiée qui n'a plus aucun lien avec la réalité des échanges économiques. L'étouffement sous la prolifération des biens de consommation, avec les déchets et les pollutions qui en proviennent et les accompagnent. Certains parmi nous ont connu mai 68. Souvenons-nous de ce slogan prémonitoire aux accents sartriens qu'on trouva sur les murs de la Sorbonne lorsqu'à la fin des grèves, on recommença à trouver du carburant aux stations-service. L'essence nous a dérobé l'existence, était-il écrit. N'était-ce pas dire déjà qu'à trop consommer, la vie se consumait, que l'avoir engloutissait l'être. Et puis, il y a l'étouffement dû à la prolifération des informations, à la multiplication des médias, cette toile qui nous enserre. Nous nous essoufflons sous des informations que nous ne savons plus trier et qui tuent la véritable communication, la parole échangée. Sans parler de l'invasion des images et du virtuel qui font de nous les spectateurs irresponsables d'un théâtre irréel, spectateurs de plus en plus surveillés d'ailleurs par un pouvoir politique contraint, lui aussi, d'assurer le spectacle sans relâche auprès d'un public conquis ou à conquérir. Et puis, il y a aussi cet étouffement procédural, de même que tout s'achète et tout se vend, de même que tout doit se dire et se savoir dans un souci idolâtre de transparence, de même. Toutes les relations entre les personnes et les groupes se contractualisent, tout se négocie, tout s'écrit, tout se signe et se contresigne. La vie recule, la parole est humiliée, disait déjà Jacques Ellul. Le texte nous envahit. Un philosophe italien, Giorgio Agamben, écrit dans son livre « Le temps qui reste », qui est une forte méditation sur l'irruption du temps de Dieu dans l'histoire des hommes, il écrit qu'avant de condamner le fondamentalisme coranique de certaines sociétés musulmanes, nous devrions nous pencher sur le fondamentalisme de nos sociétés laïques et la place normative que les textes, et je ne parle pas ici des livres saints, vous vous en doutez, y prennent. en ajoutant qu'à cette contractualisation des relations s'ajoute bien entendu une judiciarisation et souvent une pénalisation, de telle sorte que c'est le vivre ensemble qui est pénalisé par cette méfiance généralisée qui s'installe. Alors, si la crise qui s'ouvre devant nous met tout cela en question, en cause, si elle est l'occasion de desserrer les étaux qui s'étaient installés, alors peut-être s'agit-il d'une crise salutaire. Alors non seulement nous pouvons, mais nous devons ranimer l'espérance, celle d'un monde nouveau, d'un monde autre, renouvelé, pour que la terre et ceux qui l'habitent soient au bénéfice de cette jubilation du Créateur que nous rapporte la Genèse lorsqu'il constata que son œuvre était bonne et même très bonne lorsque l'homme surgit. J'ai mis devant toi la vie ou la mort, nous dit le Deutéronome, soit nous choisissons la mort, c'est-à-dire entretenir ce monde de plus en plus violent, exaspéré par la consommation, la concurrence, la performance, la méfiance, soit nous choisissons la vie, le partage, la simplicité, le don, la fraternité, la confiance. Car si l'espérance est au rendez-vous, par-delà la confiance renouvelée en un monde apaisé, c'est à la fraternité que nous sommes appelés. C'est l'ultime service que nous devons à ce monde déchiré et inquiet. Nos églises, qui confessent une unique origine de tout homme et de toute femme, qui confessent un achèvement unique de toutes nos vies dans une unique communion fraternelle, nos églises peuvent et doivent sans cesse poser, aujourd'hui plus qu'hier, les gestes qui signifient qu'au-delà de l'absurdité, de l'insensé d'un monde qui s'est fabriqué des impasses mortelles loin de Dieu, une vie nouvelle peut se construire et qu'il est temps de se convertir, de changer de comportement, de regarder l'autre comme un frère, une sœur, avec qui je peux construire un lendemain heureux dans la confiance et non pas le délinquant potentiel dont je dois me méfier, celui qui me fait concurrence et qui menace mes biens et ma vie. C'est l'ardente obligation de nos églises, une de nos tâches majeures, être encore et toujours le sel de la terre, pour que des repères nouveaux se dessinent, pour que de nouvelles confiances se raniment et ouvrent la voie à de nouvelles tâches, à de nouvelles espérances. Depuis toujours, et encore récemment au cours du siècle qui vient de s'écouler, se sont levés des défricheurs, connus ou méconnus, libérant des générosités, suscitant des libérations, provoquant des retournements de situation, des conversions. Peut-être nous appartient-il de poursuivre leurs tâches et d'être aussi, pour ce qu'ils ont dit et fait, des échos, des porte-voix, pour que, par-delà l'anxiété, la peur, la souffrance, l'espérance que nous a laissée celui que nous suivons, Jésus le Christ, soit toujours guérison, nourriture et vie pour tout homme, toute femme, tout enfant qui aujourd'hui attendent la vie en abondance qui a été promise. Alors, parce que ce royaume inauguré il y a 2000 ans demeure encore parmi nous, parce que ce royaume à venir attendu est déjà parmi nous, dans la reconnaissance, accueillons dans notre présent ce don, ce cadeau, cette grâce qui nous fait contemporains de ce passé et de cet avenir, afin qu'au cœur de ce monde, ici et maintenant, nous soyons les témoins de ce royaume de paix, de justice et d'amour et de confiance, cet impossible devenu possible que Christ a réalisé pour nous. Avec Ésaïe, Jean-Baptiste et Marie, que la célébration de Noël qui est venue, qui vient et qui viendra, soit pour nous fondation, appel et envoi. Amen.